Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un livre qui s'appelle « La mythologie des arbres » de Jacques Brosse. Ce livre foisonnant, plein de belles histoires oubliées, rassemble nos croyances sur les arbres, mais aussi les connaissances traditionnelles des civilisations dont nous sommes issus, qu'elles soient égyptiennes, sémites, crétoises, grecques, latines, germaniques ou celtes. Depuis l'origine, le destin des hommes fut associé à celui des arbres par un lien si étroit et si fort que l'on peut se demander ce qu'il adviendra d'une humanité qui l'a brutalement rompu. Les conséquences de la déforestation mondiale, nul ne peut aujourd'hui les ignorer, ni sa cause dérisoire. La consommation toujours croissante d'un papier détruit aussitôt qu'imprimé. C'est là une de ces absurdités dont nous nous refusons à prendre conscience. Pourtant, si nous voulons survivre, il nous faudra bien, avant qu'il soit trop tard, restaurer ce que nous avons saccagé, rétablir un équilibre, une harmonie plusieurs fois millénaire. Dans le livre « Les arbres de France, histoire et légende », j'ai fait allusion au rôle majeur que jouèrent les arbres dans les anciennes sociétés. Mais les exemples que j'ai donnés n'étaient que les éléments d'un ensemble plus vaste auquel, depuis 30 ans que j'écris sur les arbres, j'ai consacré une enquête aussi approfondie que possible. Le lecteur en trouvera ici les résultats. Lorsque l'on étudie les religions de jadis, on rencontre à peu près, chez toutes, des cultes rendus à des arbres considérés comme sacrés et singulièrement au plus vénéré d'entre eux, l'arbre cosmique. Celui-ci constituait le pilier central, l'axe autour duquel s'ordonnait l'univers, naturel et surnaturel, physique comme métaphysique. Sous la mythologie, quelle que d'ordinaire elle est exposée, on peut encore découvrir un fond très archaïque dans lequel les arbres étaient les agents privilégiés de la communication entre les trois mondes, les souterrains abysses, la surface de la terre et le ciel, et constituaient aussi les manifestations par excellence de la présence divine. De ce système cosmologique, unificateur mais non du tout réducteur, qui fut transmis par les traditions de siècle en siècle, de civilisation en civilisation, ne subsistent aujourd'hui que de rares fragments dispersés, devenus souvent méconnaissables, et parvenus jusqu'à nous dans un si grand désordre qu'il faut pour en débrouiller les chevaux enchevêtrés autant de patience que de circonspection. Bien que la dendrologie constitue le préalable nécessaire à tout essai de reconstitution d'une mythologie des arbres, puisque bien des problèmes qu'elle pose ne peuvent être résolus que grâce à la connaissance précise des différentes espèces et de leurs particularités, elle ne saurait suffire pour mener à bien une tâche pareille qui recoupe plusieurs domaines d'ordinaire séparés et ayant chacun sa propre discipline. Aussi n'aurais-je osé m'y aventurer si je n'avais eu quelques guides sûrs, au premier rang desquels je place Claude Lévi-Strauss, car c'est de la pensée sauvage qu'ici, fondamentalement, il s'agit. Notre recherche, apparemment fort éloignée de nos préoccupations habituelles, finalement les rejoint à leur source, puisque, en isolant l'homme de la création, l'humanisme occidental l'a privé d'un glacis protecteur. À partir du moment où l'homme ne connaît plus de limites à son pouvoir, il en vient à se détruire lui-même. On conçoit donc l'opportunité que pourrait avoir pour la pensée contemporaine la redécouverte d'une mise en ordre de l'univers qui faisait s'accorder l'homme à la nature, le profane au sacré, le quotidien au divin. Au temps jadis, bien avant que l'homme apparaisse sur la terre, un arbre géant s'est levé jusqu'aux cieux. Axe de l'univers, il traversait les trois mondes. Ses racines s'enfonçaient jusqu'au souterrain abîme, ses branches atteignaient l'empyrée. Les eaux puisées dans le sol devenaient sa sève. Des rayons du soleil naissaient ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Par lui descendait le feu du ciel. Sa cime, rassemblant les nuages, faisait tomber les pluies fécondantes. Vertical, l'arbre assurait la liaison entre l'univers uranien et les gouffres chthoniens. En lui, le cosmos perpétuellement se régénérait. Source de toute vie, l'arbre abritait et nourrissait des milliers d'êtres. Entre ses racines rampaient des serpents, les oiseaux se posaient sur ses branches, les dieux eux-mêmes faisaient de lui leur séjour. Cet arbre cosmique, on le retrouve dans presque toutes les traditions, d'un bout à l'autre de la planète, et l'on peut supposer qu'il existait surtout, même là où son image s'est effacée. L'évocation la plus grandiose, la plus suggestive du frêne Yggdrasil, qui en soit parvenu jusqu'à nous, se trouve dans les textes traditionnels de la mythologie germanique tels qu'ils furent transcrits au Moyen-Âge par les poètes scandinaves. Dans l'Edda, qui porte son nom, Snorri Sturluson, homme d'État et écrivain islandais né en 1178 et mort en 1241, donne une description célèbre du frêne géant Yggdrasil, axe et support du monde. Bien que le texte de l'Edda de Snorri n'ait été écrit que vers 1220-1230, il reflète des traditions de beaucoup antérieures. Il s'agit en effet d'un résumé en prose de la mythologie nordique, transmise oralement depuis des siècles, mais que l'on commençait à oublier. Snorri en avait systématiquement recensé tous les éléments qui subsistaient encore, tant dans sa patrie qu'au cours de ses voyages en Norvège. La description qu'il donne d'Yggdrasil, unique en son genre, mais confirmée par d'autres textes, tels la Voluspa ou Prédiction de la Voyante, saisissante évocation cosmogonique, figurant dans les Eddas, est à tous égards d'une importance extrême. Car si, sous la forme où nous le connaissons, le mythe de l'arbre cosmique est sans doute relativement tardif, il n'en constitue pas moins le principe directeur et unifiant de toute une poussière de mythes et de traditions sacrées dont il fallait faire un tout cohérent. Yggdrasil est le plus grand et le meilleur des arbres. Ses branches s'étendent au-dessus de tous les mondes et atteignent le ciel. Il a trois racines qui le maintiennent droit. Elles sont extraordinairement larges. L'une plonge dans Æsir, le monde inférieur des As, des dieux. La seconde chez les Turs de Givre, les géants de glace qui précédèrent l'espèce humaine. Le troisième rejoint Niflheim ou Nifel, le séjour des morts. Près de cette racine-là jaillit la fontaine Vergelmil, source de tous les fleuves bruissants qui irriguent la terre et la rendent habitable aux humains. Sous la première racine qui, selon la tradition, atteindrait soit le domaine souterrain des dieux, soit leur résidence céleste, lesquelles sont d'ailleurs unies par Bifrost, l'arc-en-ciel, existe une troisième fontaine, la plus sacrée de toutes, le puits sur lequel veille Urd, l'aîné des Nornes. Dépositaire des lois et coutumes archaïques, les Nornes seules sont capables de déterminer le sort, non seulement des hommes, mais des dieux eux-mêmes qui ne sont pas éternels et ne peuvent échapper au sort commun. À l'origine, Urd, la plus ancienne d'entre elles, dont le nom signifie « destinée », était vraisemblablement unique. Il est possible que dans l'état où elles nous sont parvenues, les légendes se rapportant aux Nornes, qui sont trois et représentées comme des fileuses, aient subi l'influence des Moires et des Parques des mythologies grecques et latines. Comme ces dernières, elles représentent aussi les trois phases de la Lune, croissante, pleine et décroissante, qui rythment la vie de la nature et correspondent également aux trois âges de la vie humaine, jeunesse, maturité et vieillesse. Tous les jours, les Nornes puisent de l'eau de la fontaine d'Urde avec le limon qui l'entoure et en aspergent le frêne afin que ses branches ne se dessèchent ni ne pourrissent. Toute chose qui tombe dans la source devient aussi blanc que la membrane qui se trouve à l'intérieur de la coquille de l'œuf. Autrement dit, elle retourne à sa pureté première, à son origine prénatale. De cette blancheur absolue est revêtu le couple de cygnes qui habite la source et d'où provient l'espèce d'oiseau qui porte son nom. La source d'Urde est donc une fontaine de jouvence. Près d'elle, les dieux se rassemblent afin de tenir conseil, de régler les conflits et de rendre la justice. Ce puits du destin représente le monde des virtualités, des semences, des germes, un monde d'eau et d'humus nocturne, à partir desquels sont façonnés tous les êtres vivants. Si par ses racines Yggdrasil permet l'émergence à la surface terrestre des trois domaines chtoniens superposés, celui des dieux, celui des géants préhistoriques et celui des ancêtres humains, le tronc du frêne traverse l'étage médian situé entre ciel et terre, le Migdar, où vivent les hommes, et sa cime s'élève jusqu'à Asgard, le séjour céleste des dieux. Aussi puissant qu'il soit, l'arbre cosmique n'en est pas moins sans cesse menacé. Le gigantesque serpent Njörgr ronge sournoisement la troisième racine, mais lui-même est attaqué tous les jours par l'aigle qui demeure sur les plus hautes branches. Quatre cerfs vont et viennent parmi la ramure, broutant les jeunes pousses au fur et à mesure qu'elles paraissent. La frondaison d'Yggdrasil abrite d'autres animaux, ceux-ci bénéfiques. La chèvre Edren, qui nourrit de son lait les guerriers d'Odin, l'écureuil Ratatosk, qui monte et descend, transmettant les défis mutuels que se portent le serpent et l'aigle. Celui-ci, qui sait beaucoup de choses de sa position élevée, surveille l'horizon afin de prévenir les dieux lorsque leurs adversaires de toujours, les géants, s'apprêteront à les assaillir. Dans certaines versions, à la cime de l'arbre, se tient un coq d'or commis au même office. On ne saurait exprimer de façon plus imagée que le monde est l'enjeu d'une lutte continuelle entre les forces de vie et les puissances de destruction. Yggdrasil signifie « coursier d'Ygg », l'un des noms d'Odin, le premier et le plus ancien des As, le père de tous les dieux. Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots tout attaché @gmail.com. À bientôt.